l'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Queyrouga. Laurie Millet, bonjour.
Bonjour.
On est ici dans les locaux, dans les bureaux locaux ateliers de Princesse Lia, donc cette marque, ce magasin, enfin on va en parler. Ouais. En tout cas, toi tu travailles sur la cosmétique alternative ou la soft cosmétique, c'est ça que tu revendiques ?
C'est ça que je revendique, c'est la soft révolution, c'est un peu le petit mot qu'on a inventé pour un peu aiguiller notre mouvement.
D'accord, alors la cosmétique, ça veut dire tout ce qu'on se met sur le visage ?
Alors la cosmétique, c'est une définition très claire en termes réglementaires. Oui, c'est tout ce qu'on s'applique sur la peau, sur les cheveux, sur les muqueuses externes et uniquement pour en prendre soin, modifier l'aspect ou corriger les odeurs. Donc c'est quand même large.
D'accord, alors tu parles tout de suite de réglementation. On va y revenir sur la réglementation parce que justement, ici, à Princesse Lia, il y a un gros travail là-dessus, notamment pour aider les créateurs d'entreprises. Donc toi, tu es chimiste de formation et tu as lancé donc ta petite entreprise. Tu peux nous raconter cette histoire ?
Moi, depuis aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours voulu travailler dans les laboratoires et ça a été très vite la cosmétique. Donc après le bac, je me suis spécialisée tout de suite et donc j'ai fait jusqu'à le bac plus 5. Donc j'étais ingénieure chimiste en formulation cosmétique. Donc mon but, c'était vraiment de travailler dans les laboratoires et j'avais une spécialité de la pétrochimie. Donc en petite, c'est la chimie du pétrole. Et en fait, ça ne m'a pas plu. Et sûrement, on reviendra dessus, on expliquera mieux pourquoi.
Pourquoi ?
En fait, à l'époque, je ne m'en suis pas vraiment rendu compte parce que je pense que j'étais jeune et j'étais la tête dedans. Et voilà. Mais déjà, il y avait des petites choses qui m'avaient un peu alertée du fait de quand on pose des questions, pourquoi on utilise tel ingrédient ou tel ingrédient, c'est toujours parce que ça mousse mieux, parce que ça sent meilleur, parce que voilà. Mais en fait, on n'aborde jamais le côté soins, santé. Enfin voilà, déjà, ça m'avait un peu perturbée. Et puis voilà, après, il fallait aller travailler chez des gros. C'était pas mon truc. Puis le labo, en fait, de manière générale, c'était finalement pas mon truc. Et donc, j'ai fini mes études. Et après, j'ai fait 15 ans de commerce. Donc vraiment, rien à voir. Et en 2013, je suis tombée enceinte de ma fille. Et là, comme beaucoup de mamans, ça a commencé simplement en disant « Tiens, qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que je bois ? » Il faut commencer à faire attention à tout. Et puis, j'ai retourné les bouteilles dans ma salle de bain. Et je me suis rendu compte qu'en fait, en lisant l'étiquette, je ne comprenais rien. Et c'est parti de là, en fait, de me dire « Si moi, avec mon diplôme d'ingénieur chimiste, je ne comprends pas les étiquettes, ça veut dire que le consommateur, il ne comprend pas, en fait, donc il achète des produits sans savoir ce qu'il y a dedans. » Et la deuxième constatation, c'était s'ils savaient ce qu'il y avait dedans, ça serait la révolution cosmétique, parce qu'on n'achèterait plus du tout ce genre de produits. Donc voilà, au départ, j'ai lancé Princesse Lia vraiment pour informer les consommateurs sur ce qu'ils consomment. Et j'ai fait par le biais d'ateliers Do It Yourself, parce que c'est ludique, et que je ne voulais pas arriver avec mes gros sabots et déprimer tout le monde. Donc le but, c'était de mettre la petite graine dans la tête des personnes, en disant « attention, voyez ce que vous consommez », et en même temps avoir le côté ludique de « on fabrique, voyez, c'est pas si compliqué ». Et voilà, c'est parti comme ça.
Alors, qu'est-ce qu'on se met sur la peau et qu'il ne faudrait pas qu'on se mette ? Parce que tu parles d'industrie pétrochimique. Moi, ce qu'on m'a dit, est-ce que c'est vrai ? C'est que dès que, par exemple, on se met une crème blanche sur le visage, c'est qu'il y a de la chimie, il y a du pétrole dedans ?
Dès qu'on se met une crème tout court qui vient de n'importe quelle marque industrielle que vous achetez au supermarché, en parapharmacie, je pourrais citer des centaines de marques que tout le monde achète, en fait. Ce qu'on appelle la cosmétique conventionnelle, donc hors bio, hors naturel, c'est de la pétrochimie. Donc vous regardez la liste d'ingrédients, après l'eau, ce ne sont que des ingrédients pétrochimiques, donc de l'huile issue du pétrole. Et après, plein d'adjuvants, pour que ça soit agréable, que ça sente bon, que ça glisse, etc. Mais qui n'ont aucun intérêt pour la peau. Donc, il y a deux problématiques. C'est l'origine et le fait que ça n'a aucun intérêt pour la peau. La peau, c'est un organe. Elle a besoin des mêmes choses que tout le reste du corps. Donc, des vitamines, des minéraux et une huile, par exemple, pétrochimique, une huile minérale, c'est inerte. Donc, ça n'a rien. aucune vitamine, rien du tout. Donc ça, c'est le premier problème. Et le deuxième, c'est que bah, y a forcément aussi des ingrédients problématiques. Et en fait, c'est l'effet un peu cocktail. Le fait d'en trouver dans sa crème, dans son gel douche, dans son shampoing, dans son déo, dans son dentifrice, etc. Bah, sur plusieurs années, on déclenche des réactions allergiques, en fait. Donc de plus en plus de gens sont sensibles à plein de molécules. Et ils ne pensent pas forcément que c'est à cause du cosmétique et qu'il y a ça dans leur cosmétique.
Finalement, c'est une sorte d'empoisonnement long sur la durée, parce que tu parles d'allergie, mais on sait aussi qu'il y a toutes ces questions de perturbateurs endocriniens, donc ça peut aussi provoquer des maladies. C'est une vraie question de santé environnementale.
Il y a deux côtés, parce qu'en fait, la réglementation cosmétique en Europe, c'est la plus stricte au monde. Donc finalement, c'est quand même en Europe qu'on est le plus sûr, entre guillemets. Et en même temps, la cosmétique n'échappe pas au monde actuel. En fait, la problématique qu'on va retrouver dans l'alimentation, c'est la même en cosmétique. Tous ces additifs, toutes ces choses qu'on retrouve qui, pris à part, l'ingrédient lui-même pris à part dans le dosage où il est proposé, ne pose pas de problématique. Mais quel est l'effet quand on cumule toutes ces molécules, personne ne l'étudie, on ne le sait pas. Mais il y a quand même des gens voilà, qui, effectivement, sont de plus en plus allergiques, qui ne supportent plus aucun produit, etc. Et dans les cosmétiques, c'est vraiment les allergènes qui commencent à poser beaucoup de soucis. Alors, en cosmétique, aujourd'hui, il n'y a pas eu de cas vraiment avérés très graves. Là où vraiment ça pose souci aujourd'hui, c'est vraiment les risques allergiques. Et il y en a de plus en plus. Et c'est les sensibilités, surtout chez les tout-petits. Parce que les tout-petits, ils se développent de plus en plus. Donc après, ils ne supportent plus rien. Ça devient vraiment compliqué. Après, effectivement, il y a les nanomatériaux qui sont arrivés dans la cosmétique. Donc qui sont notés très clairement sur l'étiquette. D'ailleurs, si on sait lire, il y a un nano entre crochets. Donc il faut savoir aller le... Donc ça, aujourd'hui, on ne sait pas ce que ça devient. C'est tellement petit qu'aujourd'hui, on ne sait pas. On sait que ça traverse la peau. Et jusqu'où ça va ? Personne ne l'étudie, ça n'intéresse personne. Donc voilà. Les nanomatériaux, c'est surtout utilisé dans les crèmes solaires, en fait. Et ça vient du consommateur, c'est ça le pire. C'est que les crèmes solaires, notamment naturelles, à la base, on est blanc quand on les met. Parce que c'est un filtre juste physique, justement, et pas chimique, qui reflète la lumière. Mais on n'a pas envie d'être blanc. Donc, les industriels, la seule chose qu'ils ont trouvée, en fait, c'est pulvériser la poudre pour la rendre tellement petite que du coup, on n'est plus blanc, mais on se tartine de nanomatériaux. Donc, en fait, c'est toujours ça qui est difficile, en fait. C'est que on pense... Voilà, c'est l'histoire des parabènes, en fait. Les parabènes, ça a fait un scandale tout d'un coup. Et puis, tous les industriels se sont mis à mettre sans parabènes, mais personne ne s'est demandé par quoi il avait remplacé. Et les parabènes, c'est un conservateur. Donc, c'est obligatoire dans un cosmétique. Sinon, notre crème, elle durerait 3 jours. Donc, ils sont obligés d'en mettre. Donc, quand ils ont enlevé les parabènes du jour au lendemain parce que le consommateur n'en voulait plus, ils l'ont remplacé par une autre molécule, le MIT, qui a été interdit quelques mois plus tard parce que, justement, extrêmement allergisant. 30% des gens allergiques en Europe. Et maintenant, on est sur le phénoxyéthanol. Qui pose déjà problème. On a voulu l'interdire pour les 3 ans, puis les moins de 3 ans, puis finalement oui, puis finalement non. Bon, bref, donc pendant qu'ils se battent, avec toujours notre réglementation, nous, on se l'applique. Et voilà. Et donc, oui, ça cumule avec tout le reste, avec l'environnement, avec ce qu'on mange, etc. C'est aussi une goutte de plus. Dans le problème environnemental et tout ce qu'on respire, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on s'applique.
Donc on l'a bien compris, Princesse Lia, c'est la soft révolution cosmétique que tu mets en œuvre ici. Et donc aujourd'hui, tu n'es plus toute seule après avoir créé ton activité. Tu as même deux collaboratrices. Et alors qu'est-ce que vous proposez comme alternative justement écologique et saine pour les cosmétiques ?
Nous, on a commencé vraiment avec le « do it yourself ». Donc, quand j'ai commencé, il y a quelques années, c'est vrai que j'ai l'habitude de dire qu'au début, on me regardait un peu comme un... Et puis, quand même, c'est devenu à la mode le do-it-yourself. Et puis, il y a eu toutes ces questions, justement, ces problématiques, etc. Donc, les gens s'y sont mis. Et moi, c'est vraiment parti de là parce que vraiment, la peau, pour moi, c'est un organe. Et on devrait considérer la cosmétique comme l'alimentation. C'est-à-dire qu'on devrait être capable, au quotidien, de prendre soin de sa peau avec des produits totalement naturelles qu'on trouve partout, etc., sans avoir besoin d'industriels qui nous préparent des produits qui finalement n'ont aucun intérêt pour la peau. Donc on est vraiment parti du do-it-yourself. Et du coup, ensuite, donc moi je suis une grande passionnée d'huile végétale. Voilà, c'est mon truc. C'est vraiment, je trouve, ça, c'est un produit incroyable en fait, qui est utilisé depuis la nuit des temps partout dans le monde. Enfin voilà, toutes les femmes dans toutes les civilisations ont leur huile. J'ai créé une gamme d'huiles végétales que je source auprès de producteurs. Je me suis spécialisée pas mal en France, donc je source auprès de producteurs français. C'est très difficile parce qu'à part la colza et le tournesol en France, voilà. Mais on trouve encore d'irréductibles gaulois qui produisent en petite quantité et qui pressent sur leur ferme. Et puis après, j'ai proposé aussi des marques françaises avec lesquelles je partageais la même éthique. En fait, des gens qui font les choses bien et par éthique, pas seulement ni pour l'argent, ni pour... avec des valeurs de naturalité, de minimalisme. Pour moi, c'est très important. Voilà, pas 36 000 produits dans les gammes. D'éthique dans tout, en fait, dans le marketing, dans les ingrédients. Voilà, donc là, c'était vraiment pour proposer ça. Et puis, de fil en aiguille, parce que j'avais beaucoup de demandes, il y a un an, j'ai lancé les formations. Donc, pour accompagner les créateurs de marques, parce qu'en France, quand on veut créer sa marque, c'est compliqué. Enfin, c'est surtout compliqué d'avoir les infos, notamment réglementaires, comme on a dit. Et puis même, en fait, de faire de la formulation, on n'a pas appris. Enfin, nos grands-mères auraient dû nous apprendre à faire nos cosmétiques comme la cuisine, mais ça ne s'est pas fait. Donc moi, j'informe sur la formulation et sur la réglementation.
Tu nous donnes envie de découvrir un petit peu plus. Donc, tu parles de différentes huiles qui ont été produites en France, hein, parce qu'à Princesse Lia, c'est vraiment important pour vous que ce soit pas forcément bio, mais local, éthique, pas testé sur les animaux et toutes ces choses-là, j'imagine. Hein. Du coup, qu'est-ce qu'on peut trouver? Et puis, j'imagine que ça doit correspondre à tout type de peau. Tu peux nous faire un descriptif des produits?
Oui, alors, une huile végétale, en fait, c'est une noix, un noyau, un fruit qu'on va presser en fait, et on va récupérer une graine, et on va presser, on va récupérer en fait l'huile. Donc la base de l'huile en fait, c'est des acides gras, donc les fameux oméga 3, 6, 9, comme dans l'alimentation, dont la peau a absolument besoin, et après tout un tas de vitamines, d'oligo-éléments, et en fait chaque huile va avoir sa spécificité, en fonction de la plante de laquelle elle vient, là où elle a poussé, etc. Donc par exemple, en France, on a des huiles incroyables. On a la noisette, qui sent incroyablement bon la pâte à tartiner, ou enfin voilà, la noisette. Et c'est une peau qui régule le sébum. Donc on va plutôt conseiller pour les peaux mixtes à grasse, en fait, pour au quotidien réguler le sébum, éviter que la peau elle brille. On va avoir l'amandon de prune, qui est une exclusivité française, qui sent... très très bon aussi, ça sent la frangipane. Et là, c'est plutôt pour les peaux matures, pour prévenir le vieillissement, en fait, pour se protéger de l'oxydation et pour prévenir la déshydratation. Voilà, il y a le chanvre, c'est une huile incroyable aussi. On a du pépin de raisin, on a du noyau de cerise. Des macérats comme la carotte qui est assez connue. Bon, c'est plus l'été. D'ailleurs, quand on la voit, là on peut pas voir, mais quand on la voit, elle est vraiment orange flashy. Donc voilà, elle a la couleur de sa spécificité de vraiment du hâle. I am son and heir of nothing.
I am a summoner of nothing in particular.
Les huiles végétales ont été abandonnées en cosmétique conventionnelle, en fait, de par leur odeur, leur couleur et puis le fait que ça coûte cher. Et en fait, pendant, ça fait beaucoup d'années où on rejette beaucoup le gras. Il ne faut pas que ça soit gras, pas gras, pas gras, pas gras, voilà. Alors qu'en fait, on rigole souvent, mais je dis souvent que le gras, c'est la vie, quoi. En cosmétique, quand on s'applique une crème, ce qui nous intéresse, c'est le gras dans la crème. L'eau, ça ne sert à rien dans un cosmétique. C'est juste là pour donner la forme. Donc, c'est vraiment l'huile qui est importante. Et l'huile, il faut juste savoir l'appliquer, savoir l'utiliser, mais ça sert pour tout. Se démaquiller à l'huile, c'est juste... voilà, il n'y a pas meilleur démaquillant si vous utilisez du waterproof, du n'importe quoi. Ça, rien ne lui résiste. Ça s'applique juste 2-3 gouttes sur peau humide en sérum, voilà, et ça pénètre très bien. À la sortie de la douche, sur jambes humides, pareil, quelques gouttes, et voilà, on a la peau... c'est vraiment... vraiment ultra doux. Les cheveux, sur les pointes des cheveux secs. Voilà, enfin vraiment, c'est un produit multifonction et c'est pour ça que c'est vraiment un peu l'emblème de Princesse Ia. C'est un produit vraiment minimaliste. Et en fait, dans un petit flacon, c'est du concentré. C'est que de l'actif et c'est multifonction, en fait. Donc, un flacon peut servir à plein de choses. Et nous, on aime bien ce principe-là de ne pas multiplier les produits inutiles.
Là, il y a une gamme de ta marque, Princesse Lia, une vingtaine, trentaine d'huiles différentes. Mmh. Donc, tu as créé ta marque et ça faisait partie aussi d'un projet personnel, hein, pour en revenir un petit peu, de proposer autre chose, de toucher les gens, de leur proposer quelque chose de bon, de sain, mais aussi un défi personnel de créer sa marque parce que c'est très, très compliqué.
Oui, bah c'était en fait que quand on en revient à la naissance de ma fille, etc., et d'avoir créé ma marque, c'est aussi, et je pense que beaucoup de personnes connaissent ça en ce moment, c'est l'histoire d'alignement de valeurs et de sens de sa vie. Et c'est vrai que moi, je suis arrivée à un point quand ma fille est née où en fait, j'avais un boulot de cadre, je me suis éclatée pendant 15 ans, je me suis fait presser comme un citron aussi, mais j'ai pas rechigné, j'ai mis ça. Mais en fait, je me suis dit, mais c'est quoi le sens? Pourquoi je me lève tous les matins? Qu'est-ce que j'apporte à la société, mis à part que je permets à mon patron de se payer et à moi aussi accessoirement? Mais voilà, il n'y avait pas de... Donc quand j'ai créé Princesse Ia, c'était déjà parce que j'avais besoin de ma liberté. J'avais besoin de faire les choses comme j'avais envie de les faire. Et j'avais besoin d'apporter quelque chose, créer sa société, ok, mais avec derrière une véritable envie de changer les choses. Et avec mon conjoint, on parle souvent des changemakers. C'est faire les choses en essayant de les faire du mieux possible et en apportant sa petite pierre à l'édifice, sa petite goutte d'eau dans l'océan, d'éthique, de valeur, de sens. Donc c'est vraiment... Princesse Ia, c'était vraiment ça. C'était... vivre de ma passion, la partager, surtout informer. Moi, c'est vraiment ma passion aussi, c'est de former, d'informer. J'aime beaucoup ça. J'aime voir les yeux des gens quand ils disent « Ah bon ?» et faire tout ça avec plein de valeurs, en fait. Et beaucoup de sociétés se montent en ce moment avec ce... Voilà, il y a une espèce de lame de fond qu'on voit arriver et que moi, j'ai vu en 3 ans. Là, c'est incroyable le nombre de marques qui se sont montées. Enfin, ils s'en montent tous les jours. Et c'est vraiment, en cosmétique, c'est les petites marques qui ont fait bouger les gros. Et c'est assez rare pour le souligner, mais c'est vraiment des petites marques qui sont montées et qui ont obligé les gros maintenant. Voilà, bon, ils en sont au greenwashing, ils ne sont pas encore au vrai green, mais ils sont obligés de prendre le train en marche parce que maintenant, les consommateurs sont de plus en plus alertés, veulent consommer de mieux en mieux. Et en fait, on les fait bouger. Et ça, c'est quand même une satisfaction qui fait plaisir quand on se lève le matin.
Alors, ce que tu disais quand je suis arrivée ici à Princesse Lia, c'est qu'il y a un changement. Tu l'as vu depuis 3 ans. Il y a de plus en plus de petites entreprises qui se montent pour faire du cosmétique naturel, zéro déchet, éthique, local. Et du coup, tu accompagnes justement les créateurs d'entreprises dans leur parcours parce que toi-même, tu l'as vécu et que tu vois qu'il y a un changement aussi. En plus, donc, des ateliers Do It Yourself, donc, où tu viens faire toi-même tes cosmétiques ou tu informes en direct, tu fais des formations finalement à destination des professionnels.
Oui, voilà, là c'est vraiment des formations certifiantes à visée professionnelle, donc c'est pour des reconversions souvent. Donc voilà, c'est des personnes qui ont vraiment une volonté forte de créer leur marque, mais en fait qui ne savent pas comment faire. Et notamment, voilà, comme je disais, avec la formulation et la réglementation. Qui à la base n'est pas faite pour les petites marques. À la base, ça a été fait pour régir les industriels. Donc, il faut essayer de faire plier cette réglementation pour les petits, déjà les informer et puis leur dire comment faire pour être en règle avec cette réglementation et pouvoir vendre des cosmétiques, bien évidemment, sûrs, sains pour le consommateur et vraiment en respectant la législation.
Alors justement, c'est assez compliqué. J'imagine qu'il y a des questions. Moi, je me posais la question, la première question qu'on se pose, quand on veut créer sa marque, il faut avoir un petit laboratoire qui soit aux normes.
Alors, il faut un petit laboratoire. Alors, j'appelais ça laboratoire. Maintenant, je dis atelier parce que ça fait moins peur. Mais en soi, oui, c'est ça. En fait, si on veut produire soi-même ses cosmétiques, ce qui n'est pas obligatoire parce qu'il y a des labos qui peuvent le faire pour vous et il n'y a aucun problème avec ça, si vous le choisissez bien. Mais si vous voulez fabriquer vos propres cosmétiques, oui, il faut un labo aux normes. Mais un labo, en fait, c'est rien d'autre qu'une cuisine. Voilà, les cuisines des restaurants sont soumises pratiquement à la même législation, en fait. Donc, c'est juste des normes d'hygiène. Et un manuel qualité, bon, c'est pas très sexy, il faut l'écrire, ça fait pas, voilà, ça fait pas rêver et c'est un peu long. Mais il n'y a rien d'insurmontable. Et à aménager, c'est vraiment très simple. C'est une cuisine, quoi, ou de l'inox, des plans de travail, voilà. Aménager, ça coûte pas tellement cher, mais ça fait peur au départ. Quand on voit la réglementation et le texte, qui est assez, il y a 13 chapitres, il y a 311 exigences, etc. On se dit, mon Dieu, mais j'y arriverai jamais. Mais finalement, quand on le décortique, on se rend compte que c'est pas si compliqué que ça et que c'est juste du bon sens pour assurer l'hygiène et la sécurité de son produit. Donc, c'est tout à fait faisable. Il y en a qui l'ont fait. Je dis souvent à mes élèves, il y en a qui l'ont fait, ils n'étaient pas plus bêtes, pas plus intelligents, pas plus riches, pas plus... Voilà. Il faut juste avoir la volonté, vraiment. Il faut que ça soit un projet de cœur. Et puis s'y lancer, et puis ça se fait.
Alors, petite question, si on veut créer sa marque de cosmétiques écologique, éthique, etc., il y a beaucoup de concurrence ? Est-ce qu'il y a encore de la place pour tout le monde ?
Alors, il y a beaucoup de concurrence, surtout ces derniers-là, ça explose. Mais faut quand même se rendre compte qu'on se dispute encore des poussières d'étoiles du chiffre d'affaires de la cosmétique aujourd'hui en France, hein, parce que si un jour L'Oréal devait disparaître pour pas le nommer, il y aurait de la place pour encore des milliers et des milliers et des milliers, je ne sais combien d'entrepreneurs. Bien sûr, mais c'est maintenant qu'il faut le faire si jamais on a envie de le faire, et bien sûr qu'il y a de la place parce qu'après on peut vendre localement, on peut vendre nationalement, après ça dépend le projet. Qu'on a en tête, mais il y a des marques qui vivent très bien juste localement et voilà, on les connaît même pas nous, mais les porteurs de projets, eux, ils vivent de leur entreprise et voilà, il y a eu l'avènement beaucoup des savonniers. Il y en a beaucoup, beaucoup qui se sont créés parce que ça fait partie des produits les plus simples en termes de réglementation. Donc, il y a eu un peu l'avènement des savonniers. Et maintenant, les savonniers se mettent à la cosmétique. Et les gens, de manière générale, ça y est, se sentent un peu plus décomplexés par rapport à la cosmétique. Et maintenant, c'est pas que le savon, c'est aussi la cosmétique de manière générale.
Alors justement, tu parles de vendre. Finalement, c'est aussi, bien sûr, après avoir fabriqué, en apprenant les formulations qu'il faut, toutes les réglementations, son petit laboratoire, atelier, bon, pour fabriquer, il faut vendre. Et là, il y a quand même une sacrée concurrence parce que bah, il faut se faire connaître. On n'a pas l'argent pour faire la pub. Et puis il y a effectivement les grandes marques qui ont réagi, qui se sont adaptées. Notamment, donc tu parlais des huiles. Maintenant, on les voit partout en pharmacie, les huiles pour le visage et tout ça. On va pas citer de marque, mais mais il y en a plein partout qui réapparaissent. Avant, on les voyait pas. Donc, comme tu disais, les petits producteurs, les petits indépendants comme toi qui ont créé des cosmétiques alternatives se font reprendre une part de marché. Donc, comment c'est possible de gagner cette bataille? Quelles sont, toi, tes stratégies ou celles que tu recommandes à tes élèves en formation cosmétique?
Déjà, de ne pas se battre sur le même terrain, en fait, parce que si on se bat sur le terrain de l'argent ou de la publicité, ou, bon, bah, on est perdu d'avance. Après, moi, c'est pour ça que je crois vraiment d'appuyer fortement, de baser son entreprise et d'appuyer fortement sur vraiment ses valeurs. Parce qu'en fait, vraiment, les consommateurs, aujourd'hui, ils sont en quête de sens et ils sont prêts à mettre un peu plus s'ils savent que qui c'est qu'il y a derrière et qui c'est qui l'aide, plutôt que d'enrichir quelqu'un du CAC 40. Donc voilà, c'est vraiment de la communication qu'il faut faire, de la transparence. Voilà, moi, mes élèves, je leur dis, voilà, vous êtes des petites marques, soyez transparents sur tout, montrez comment vous travaillez, montrez qui vous êtes, montrez quelles sont vos valeurs. Et aujourd'hui, on a quand même l'avantage d'avoir des réseaux sociaux, enfin, d'avoir aussi de la com qui coûte rien. Bon, il faut se former un peu aussi, il faut l'appréhender, mais aujourd'hui, on peut se faire sa petite communauté sur Facebook, sur Instagram, sur ou localement. Il y a des clubs d'entrepreneurs, enfin il y a plein de choses pour se faire connaître qui coûtent pas cher. Et alors c'est plus long, soit, je dis toujours, de toute façon, soit c'est du temps, soit c'est de l'argent, mais il y a pas de secret. Mais on peut se faire connaître. Il y a beaucoup de magasins aujourd'hui qui cherchent à se différencier, justement, à pas vendre la même huile que toutes les pharmacies ou que tous les qui cherchent des choses différentes. Et du coup, il y a un petit circuit parallèle qui se fait très bien dans les concept stores, dans des magasins spécialisés. Il faut bien étudier son marché et savoir où c'est qu'on veut vendre. Les bio, enfin aussi tous les magasins bio qui deviennent assez friands aussi de marques un peu différentes. Tout le monde veut se différencier, en fait. Donc, les petites marques, elles ont à jouer, justement, sur, il faut qu'elles appuient leur différenciation. Le but, c'était de pouvoir offrir le service, plus de monde possible, en fait. C'est vrai qu'Internet, ça permet de toucher des gens en dehors de sa zone de chalandise et de son cercle. Donc oui, tous les produits sont en vente sur le site. Et là, on déstocke les marques, puisqu'on va développer vraiment notre gamme, vraiment spécialisée sur les matières premières, avec du sourcing vraiment au cordeau, auprès des producteurs. Et voilà, et accompagner encore plus les personnes qui veulent animer des ateliers. Alors, bien sûr, qui veulent faire leurs produits, qui veulent utiliser des matières brutes pour prendre soin d'elles, mais aussi les personnes qui veulent animer des ateliers, les personnes qui veulent créer leur marque, pouvoir leur fournir des matières premières, vraiment. C'est sûr que quand on achète une huile chez un petit producteur, on voit vite la différence avec une huile lambda. On le voit à la couleur, à l'odeur et puis à l'efficacité sur la peau. Donc des produits de qualité, mais accessibles. C'était vraiment ça aussi, arrêter de... Parce que c'est le petit producteur, etc. Parce que c'est beaucoup ça en cosmétique. À partir de là, on met beaucoup de marketing et puis on vend le flacon à des prix exorbitants. Nous, notre volonté, c'était vraiment que ça soit accessible au plus grand nombre. Alors, on a limité le marketing, on a limité tout le truc autour. Il n'y a pas de suremballage, il n'y a pas de... c'est juste une étiquette. Mais le but, c'était de proposer un prix le plus juste possible, que tout le monde puisse s'offrir un produit de qualité.
Merci, Laurie.
Merci.
C'était l'ours et la carotte. Écoutable sur Internet. That's the remember.